Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bon réveil à tous et bonjour à Clara.
Bonjour à Guillaume, bonjour à tous. Un report du Brexit de 3 mois, pas plus. Face à l'impasse britannique, les Européens entrouvrent une petite porte. Ils se réunissent à Bruxelles en sommet à partir d'aujourd'hui. État des lieux des différentes prises de position dans un instant.
Nous nous pencherons ensuite sur un autre sujet qui inquiète Bruxelles, la coopération économique avec la Chine. Le président Xi Jinping va charmer l'Italie, il arrive à Rome aujourd'hui.
Dans ce journal, un reportage rare dans le Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie. Un territoire non autonome selon l'ONU, les réfugiés qui ont fui face aux Marocains envisagent une nouvelle guerre. L'ONU organise des pourparlers.
Et puis l'affaire dite Benalla est au Sénat ce matin encore. Il pourrait transmettre au parquet les cas des proches d'Emmanuel Macron hier. Alexandre Benalla a été, lui, mis en examen pour de nouveaux chefs d'accusation.
Comment expliquer les violences à l'école? Comment y mettre fin? Nous sommes allés à Saint-Denis, au nord de Paris, où une réunion à ce propos doit se tenir aujourd'hui. Nous avons interrogé des professeurs, des élus, mais surtout des collégiens premiers touchés. Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs s'intéressera aux fusibles en politique. C'est dans un quart d'heure. Un court report du Brexit est donc possible. À quelques heures de l'ouverture du Conseil européen, où va se jouer l'avenir du Brexit et donc du Royaume-Uni, le président du Conseil, Donald Tusk, n'exclut pas ce report, qui pourrait être de 3 mois, du 29 mars au 30 juin. Il demande toutefois que le Parlement britannique accepte l'accord négocié par leur première ministre, Theresa May, et il renvoie ainsi la balle dans le camp londonien, Bertrand Galichet.
En exigeant pour accorder un délai un vote positif du Parlement britannique sur l'accord de retrait dès la semaine prochaine, Donald Tusk accentue la pression sur le Royaume-Uni. Le président du Conseil européen s'appuie sur les consultations conduites ces derniers jours avec les 27, car une extension du Brexit, même pour un temps assez court, nécessite l'unanimité au Conseil. Les dirigeants européens sont donc décidés à conditionner cet éventuel report à l'acceptation d'un texte déjà rejeté à 2 reprises par les communes. Même si Jean-Claude Juncker ne s'attend pas à une décision aujourd'hui ou demain à Bruxelles, chacun se prépare à des discussions intenses. La France fait partie des pays les plus fermes. Elle réclame des garanties sur le vote d'un accord qui ne sera pas renégocié et refuse toute participation britannique aux élections européennes. L'Allemagne semble partagée entre la position assez conciliante d'Angela Merkel et celle plus rigide de son ministre des Affaires étrangères. En revanche, la durée d'un éventuel report soude les Européens face à Londres. En tout état de cause, ils ne devraient pas accepter de prolonger le Brexit jusqu'au 30 juin.
La demande de Londres sera donc au menu du Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui et va durer 2 jours. Autre question sans doute soulevée dans les couloirs bruxellois, celle de la place de l'Union face à la Chine. Car le président chinois arrive en Europe. Avant Monaco puis la France, Xi Jinping est attendu ce soir en Italie et c'est bien ce qui inquiète la Commission européenne. Pékin est un partenaire commercial mais aussi un rival et l'Italie pourrait lui ouvrir ses ports, coopérant sur la nouvelle route de la soie, Mathilde Imberti.
L'Italie serait le premier pays du G7 à rejoindre le projet chinois de nouvelle route de la soie. Un protocole doit être signé samedi en présence du président chinois Xi Jinping, incluant un ensemble d'accords commerciaux dont le contenu reste à dévoiler. Ce sont d'abord les ports de Trieste et Gênes qui intéressent potentiellement les Chinois comme autant d'accès aux marchés européens. Dans ce rapprochement, la Chine n'a rien à perdre. L'Italie, bien davantage, analyse le sinologue italien Francesco Sisci. Il enseigne à l'université du peuple de Chine à Pékin.
Pourquoi visiter Rome avant Paris? Parce que l'Italie jouit d'une primauté culturelle du fait de ses rapports millénaires avec la Chine. En partant de l'histoire, les Chinois veulent repenser leur rapport actuel avec l'Occident. Pour l'Italie, par contre, le risque est de se retrouver isolée, tant de l'Europe que des États-Unis.
Nous faisons un choix de nature purement économique et commercial, se défend le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, rejetant les critiques d'Emmanuel Macron, entre autres, qui plaident pour une approche coordonnée face à Pékin. L'Italie accueille ce soir avec les honneurs le président chinois et sa délégation de taille impériale. Pas moins de 500 personnes l'accompagnent dans sa tournée européenne.
Et la France, elle, a déjà prévenu, inquiète d'un manque de coopération. Elle ne signera pas d'accord pour participer aux nouvelles routes de la soie avec la Chine. La droite européenne, comprenez le PPE, le Parti Populaire Européen, a décidé de suspendre temporairement le Fidesz, le parti du dirigeant hongrois populiste Viktor Orban. Une décision prise à une très large majorité. Aucune durée de suspension n'est mentionnée dans ce compromis. Les populistes eurosceptiques encore, à 2 mois, rappelons-le, des élections européennes, ils font aux Pays-Bas une forte percée lors d'élections provinciales, devenant le 2e parti à la Chambre haute. La coalition gouvernementale du Premier ministre néerlandais, elle, y a perdu sa majorité. Elle va donc devoir trouver d'autres alliances. L'ONU organise aujourd'hui des négociations entre le Maroc et le Front Polisario, du nom de ce mouvement politique et armé dans le Sahara occidental. Car si la guerre autour de ce territoire de sable coincé entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, si la guerre est officiellement terminée depuis 1991, les deux camps revendiquent toujours leur souveraineté. Un référendum d'autodétermination promis à l'époque par l'ONU n'a jamais eu lieu. Depuis 1975, 170 000 réfugiés Sahraoui se trouve dans le désert, dans le sud-ouest algérien. Il est difficile de les rencontrer. Pourtant, pour France Culture, Hugo Flotatalon s'y est rendu. À son micro, ces réfugiés disent préférer la guerre au statu quo si les négociations échouent. Voici son reportage.
Dans ce désert de sable et de cailloux, assis dans une tente, Omar raconte être né ici, dans les camps, il y a 21 ans. En espagnol, la langue laissée par l'ancienne colonie, l'aîné de cette famille de 6 enfants dit ne penser qu'à une chose, partir.
Je ne veux pas que les petits vivent ce que j'ai vécu ici, parce qu'il n'y a pas de futur ici.
Omar aurait pu étudier en Algérie, mais a tout abandonné pour aider sa famille et survit grâce à un petit job de vendeur et l'aide humanitaire. Une détresse parmi d'autres que déplore la gouverneure du camp, Myriam Salek Ramda.
Ils vivent dans une misère chronique alors qu'ils voient leurs richesses spoliées, volées, vendues par les forces marocaines. Donc ils se disent « retournons à la guerre, mourons tous ou prenons notre liberté et notre indépendance ».
La guerre pour en finir, la phrase revient dans chaque conversation. Devant le musée de la résistance au cœur des camps, le guide Adou El Hadj montre un alignement de chars capturés par le Polisario à l'armée marocaine avant le cessez-le-feu de 91.
C'est un problème de décolonisation et de territoire. Nous sommes pacifiques, mais aussi, s'il le faut, s'il n'y a pas de résolution, on est prêt à retourner aux armes.
Une situation dont se dit conscient le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, membre du Front Polisario, Mohamed Salem Salek. Il parle d'urgence avant de retourner aux négociations.
Et si aujourd'hui le Front Polisario a un problème, le seul problème c'est ça. C'est convaincre, comment convaincre la population sahraoui de tenir encore.
La politique d'éducation pour tous semble pour l'instant préserver les camps de la violence, mais dans une région marquée par le terrorisme, personne ne peut dire ici combien de temps ça durera.
Hugo Flotatalon dans le désert du Sahara occidental pour France Culture. Les fusils d'assaut et les fusils semi-automatiques seront interdits en Nouvelle-Zélande. La première ministre du pays l'annonce ce matin, 6 jours après l'attentat qui a visé 2 mosquées et fait 50 morts. À noter également le célèbre romancier égyptien Ala El Aswani qui est poursuivi en justice par le parquet général militaire de son pays, en Égypte donc. Il est accusé d'insultes envers le président dans son dernier ouvrage. Lui revendique le droit et le devoir de l'écrivain de défendre les valeurs humaines. Dans une interview que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, il précise que c'est la littérature qui est militante et non l'écrivain.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Alexandre Benalla a une nouvelle fois été mis en examen.
Ah oui, dans 2 affaires distinctes. La première pour port et détention non autorisée d'armes de catégorie B. Il s'agit de l'enquête sur un selfie pris avec une arme à la main lors de la campagne présidentielle de 2017. Et puis les chefs de violence volontaire en réunion et immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Ces 2 chefs d'accusation ont été retenus concernant les incidents du 1er mai dernier dans le Jardin des Plantes à Paris. Par ailleurs, ce matin, le Sénat doit se prononcer sur l'éventuel renvoi devant la justice de plusieurs protagonistes auditionnés dans cette affaire Benalla, justement. À quoi peuvent-ils s'attendre, Stéphane Robert ?
Bien malin qui peut prédire le résultat du vote du bureau du Sénat ce matin. Concernant Alexandre Benalla et son comparse Vincent Crase, la question ne se pose pas. La commission d'enquête a établi qu'ils ont bel et bien menti alors qu'ils étaient sous serment. Ils seront tous deux renvoyés devant la justice pour faux témoignage. Tout l'enjeu et toute l'incertitude porte sur le renvoi des 3 hommes du président de la République, Alexis Keller, Patrick Strauda et le général Lavergne. Les sénateurs ont pointé lors des auditions des omissions, des incohérences. Sur cette base, ils proposent de transmettre au procureur, charge à lui ensuite de décider de poursuivre ou non. Et ce vote ne va pas se déterminer en fonction de l'aspect strictement juridique. mais en fonction de considérations politiques. Selon que le Sénat décidera de s'attaquer aux proches d'Emmanuel Macron ou de la jouer profil bas, ça changera beaucoup de choses concernant la réforme des institutions et la réduction du nombre de parlementaires voulu par le président. Si les sénateurs ne montent pas au front, les discussions pourront se poursuivre entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Mais si c'est la ligne dure qui l'emporte, les positions vont se crisper. Le président du Sénat pourrait se retrouver en position inconfortable. Et puis, tout ça peut aussi avoir une influence déterminante sur d'éventuelles alliances en vue des élections municipales de 2020. Pour l'heure, on sait que la gauche et la droite ont la tentation de pousser leur avantage en s'alliant contre le président de la République. Mais des tractations en coulisses et des considérations particulières pourraient faire changer d'avis un certain nombre de sénateurs. L'incertitude est donc totale sur ce combat politique qui, comme de coutume au Sénat, se déroule dans un silence retentissant.
Est-ce bientôt la fin de la déclaration d'impôt ? Le Figaro rapporte ce matin des propos de Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics. Il pourrait annoncer la fin de la déclaration d'impôt l'année prochaine, dans la droite ligne du prélèvement à la source. Son entourage confirme l'hypothèse. Gérald Darmanin, qui, selon certains, était sur le départ pendant un temps, son nom aujourd'hui n'est plus cité, mais un mini-remaniement pourrait avoir lieu la semaine prochaine au sein du gouvernement, car la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, s'apprête à porter les couleurs de la majorité pour les européennes en mai prochain. Il va donc falloir la remplacer, Rosalie Lafarge.
Pour reprendre le portefeuille de Nathalie Loiseau en pleine tourmente du Brexit, l'exécutif veut quelqu'un de chevronné. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, pourrait assurer un intérim, mais en interne, on parle plutôt d'une nomination. Et pour l'instant, un nom revient régulièrement dans les couloirs du ministère, celui de Clément Beaune, le conseiller Europe d'Emmanuel Macron. Un homme extrêmement compétent, qui sait tout ce qu'il faut savoir sur la question, assure-t-on au gouvernement. Mais c'est un homme, justement, et l'équipe d'Édouard Philippe ne respecte déjà plus la parité depuis la nomination d'Adrien Taquet. Sauf que Nathalie Loiseau ne sera peut-être pas la seule à partir. Se murmure à demi-mot la possibilité d'un départ concomitant. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a visiblement très envie de se consacrer à sa candidature pour la mairie de Paris. Pas sûr que l'exécutif souhaite s'en séparer maintenant, mais déjà, les noms de ses remplaçants circulent. Et là aussi, il y en a un qui ressort un peu plus que les autres. Celui d'Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, se serait révélée en pilote du grand débat. Alors pourquoi pas lui confier les rênes de la communication gouvernementale ?
Un gouvernement qui repousse depuis des semaines maintenant son plan pour lutter contre les violences scolaires. Il est annoncé depuis l'automne, depuis la diffusion d'une vidéo montrant un élève en train de menacer sa professeure avec une arme factice. C'était à Créteil, au sud de Paris. Le plan, depuis, peine encore à obtenir un consensus au sein du gouvernement. Alors en attendant, la mairie de Saint-Denis, au nord de Paris, organise ce matin une réunion des pouvoirs publics entre département, police et parquet. Il sera question surtout de la violence qui envahit les établissements scolaires du quartier de la Courtille à Saint-Denis, donc un quartier dit prioritaire. Les attaques punitives entre bandes rivales sont quasiment hebdomadaires. Cécile de Kervas-Doué, au collège La Courtille, a interrogé à ce propos les collégiens.
Comment vous sentez quand vous venez à l'école ?
Quand j'arrive, je me dis bien. C'est bon, j'ai fait le chemin, c'est bon.
Ouais, vous avez peur de quoi ?
De mourir, un truc comme ça.
Après 10 jours sans cours, les élèves du collège La Courtille ont repris la classe avec une matinée consacrée à la violence. Celle du quartier, de ses bandes, de ses trafics, mais aussi celle si présente au sein de l'établissement et dont les quatrièmes semblent avoir pris conscience.
On a beau parler avec les gens, mais à un moment donné, s'ils comprennent pas, on va les tarter, je sais pas. On se contrôle, mais à un moment ça déborde. On est des humains, on a des nerfs à un moment donné, ça part.
De quoi expliquer les matraques, couteaux, tasers, apportés par les collégiens dans l'établissement, ou l'agression de l'enseignant juste avant les vacances de février devant le collège, qui rappelle le drame en septembre dernier de cet ancien élève, âgé de 16 ans, abattu à quelques mètres du collège. Alors les enseignants exigent des moyens supplémentaires pour sécuriser le bâtiment, oui, mais surtout pour déconstruire cette violence avec leurs élèves, explique Célia Colli, professeure d'anglais.
Ce qui se passe, c'est qu'on ne nous donne pas en fait les moyens horaires de gérer cette violence en fait. On n'est pas des magiciens, on n'est pas non plus censé être des psychologues, des assistants sociaux, des policiers aussi. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire.
Parce que cette année, ce collège classé prioritaire a perdu près d'un quart de son budget. L'inspection académique répond que la violence n'est pas un problème de moyens, ce que va contredire le maire PCF de Saint-Denis, pour qui il faut remettre les moyens humains de la République dans les quartiers. Laurent Russier.
On a conservé nos espaces jeunesse, on en a même ouvert 2 supplémentaires. Ça ne répond pas à toutes les demandes ou les besoins. Il faut qu'on redonne des moyens à la prévention spécialisée. C'est ce qu'a révélé la mission d'évaluation parlementaire. Depuis 20 ou 30 ans, de manière structurelle, la Seine-Saint-Denis n'est pas traitée à égalité sur les questions d'éducation, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice.
Sorti en mai dernier, ce rapport, co-signé par deux députés LR et LREM, montrait non seulement que le nombre de policiers du 93 avait diminué de 200 postes en deux ans, mais qu'un établissement scolaire classé prioritaire de Seine-Saint-Denis était toujours moins bien doté que le moins bien doté collège de REP parisien. Une différence de traitement que les collégiens de la Courtille ont fort bien saisi.
Ça serait passé à Paris, ça, ils auraient direct parlé dans les infos comme quoi il y a un professeur qui s'est fait tabasser. Là, c'est passé à Saint-Denis, personne n'a parlé de ça.
C'est comme si on était les parias de la société en fait.
Voilà des propos plutôt rares de jeunes de Saint-Denis. C'était un reportage de Cécile de Kervas-Doué. Seules les côtes de la Manche seront chargées en nuages ce jeudi quand le soleil va briller partout ailleurs avec des températures encore en hausse. Il fait 10 degrés ce matin à Bordeaux et Lille, 11 à Rennes et Lyon, 12 degrés à Paris, 15 à Marseille.